que Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
Oh que oui, le Sieur de Terrien est prêt. Et pas à moitié à part de ça. Comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ah, ça va très, très bien.
Oui!
Ça va?
Hey, on se fera pas prendre comme hier.
Vas-y, pète le feu. François, deux affaires. La première, quand je disais aux auditeurs qu'on est en train de refaire le monde pendant la pause, c'est pas vrai. Je disais que j'aimerais ça un jour que tu te promènes sur la rue ou que tu fasses tes commissions puis que les gens te reconnaissent parce qu'ils écoutent l'émission puis qu'ils disent « Hein? C'est-tu vous le Sieur de Terrien? » Je voudrais pas qu'ils t'appellent François.
Le Sieur.
Je voudrais qu'ils t'appellent « C'est-tu vous le Sieur de Terrien? » Je trouverais ça écœurant. Et deuxièmement...
Je te le fais savoir si jamais ça arrive.
Ah, s'il te plaît, oui, j'aimerais vraiment ça. Et deuxième chose, aujourd'hui... Joseph-François Perrault, bien plus qu'une école secondaire.
Oui, on poursuit notre série bien plus que. Et aujourd'hui, c'est Joseph-François Perrault qui est notre vedette. Lui, il a une école secondaire, évidemment, qui porte son nom depuis presque 60 ans. C'est celle qui est située sur le chemin Sainte-Foy.
Au bout de la rue là-bas.
Ouais, au bout de la rue là-bas, mais au bout de la rue Cartier.
Oui.
Dans le fond, à l'angle Cartier et chemin Sainte-Foy, c'est là que l'école Joseph-François Perrault est située. Elle a été ouverte en octobre 1961. C'est une des premières qui a été construite dans la région, après la fameuse passation du pouvoir là, au niveau de l'enseignement entre les institutions religieuses et le gouvernement.
La fameuse sécularisation. Si
et
jamais
voilà.
Vous voulez flasher, ben là, il n'y a pas trop de souper de famille ces temps-ci, mais si jamais vous voulez flasher...
Il y en aura un moment donné.
La sécularisation.
De oui, l'enseignement. Merci. Et voilà, le début de la Révolution tranquille, finalement. Et donner le nom de Joseph-François Perrault à une des premières écoles construites à Québec au début de cette Révolution, mais ça n'avait rien d'anodin. Parce que Perrault fut l'un des premiers à prôner l'école publique gratuite et obligatoire pour tous. Puis ça, il l'a fait dès la première moitié du 19e siècle. Alors,
oh,
il était...
1800, quelque chose.
Ouais, au début des années 1800. Là,
il était 100 ans d'avance sa Révolution tranquille.
Quasiment 150 ans. Hein.
C'était
un précurseur, vraiment. Lui, il est né, M. Perrault, en 1753 à Québec, donc dans les dernières années de la Nouvelle-France. Il est issu d'une famille de commerçants de fourrures par son père et son grand-père. Là. C'était de génération en génération. La famille va se réfugier à Trois-Rivières pour fuir le siège de 1759, quand Wolfe est arrivé devant Québec. Elle va retourner la famille Perrault à Québec en 1763. Et à ce moment-là, Joseph-François Perrault commence des études au séminaire de Québec, mais il ne les complétera pas. Parce que son père s'est installé en Louisiane, toujours propriété française, pour poursuivre son commerce. Donc, il fait venir sa famille en 1772. Il restait un an à Joseph-François Perrault pour compléter son cours au séminaire. Mais finalement, le paternel a dit, bon, ben tout le monde descend en Louisiane parce que c'est là que je m'établis puis c'est là
vous
qu'on
venez
va...
travailler à shop.
C'est ça, puis c'est là qu'on va rester. Il s'est emmené à la Nouvelle-Orléans, puis ça a duré 6 mois le voyage. On ne dit pas par où exactement il est passé. Monsieur. J'imagine qu'il est passé par l'océan. Il n'a pas dû redescendre par le fleuve Mississippi, mais ça a duré 6 mois. Alors, ça a été quand même assez long.
Ils ont arrêté d'un petit stop.
Exactement.
Ils ont arrêté d'un halte route.
C'est ça, oui. Ils ont dû arrêter pas mal souvent. Pendant les 10 années qui vont suivre, là, grosso modo de 1772 à 1781, le jeune Joseph-François Perrault va arpenter les États-Unis, qui ne sont pas encore les États-Unis à l'époque. Il s'installe à Saint-Louis pendant plusieurs années pour veiller au commerce de son père dans cette ville. Il y avait des comptoirs là, puis son père il a dit, bon, ben toi, tu vas avoir la responsabilité des comptoirs à Saint-Louis. Puis en 1779, il se rend en Virginie par bateau, mais il est capturé par des Amérindiens qui sont à la solde de l'Angleterre. Oubliez pas, 1779, on est en pleine guerre d'indépendance, alors ça brasse dans ce coin-là. Les Amérindiens vont l'amener à Détroit et le périple va durer un mois. Puis Joseph-François Perrault doit la vie à sa grande forme physique et à la chance, parce que disons qu'il n'était pas très, très bien nourri par ses capteurs. Alors, il monte jusqu'à Détroit, puis il y a un oncle à Détroit qui est là. Alors, pendant 2 ans, jusqu'en 1781, il va œuvrer, toujours dans le commerce de la fourrure. Il s'installe à Montréal cette année-là, en 1781, mais il va retourner aux États-Unis un peu plus tard. Puis c'est à ce moment-là qu'il constate que la place des Canadiens français dans le commerce n'est plus viable parce que ce sont les compagnies anglaises qui obtiennent les faveurs des autorités. Alors là, il voit que c'est un cul-de-sac, il abandonne les affaires et il revient s'installer à Québec avec sa famille. On est grosso modo autour de 1787, ça fait presque 30 ans que la conquête est faite et déjà les nouveaux Français, les Canadiens français sentent le poids de la colonie s'abattre un peu sur eux autres. C'est pas eux autres qui ont les meilleurs postes et les nouveaux gouvernants de la Nouvelle-France Ben, ils favorisent les Anglais. Alors, ouais. Pour faire du commerce pour un Canadien français, là, ça commence à être difficile. Donc, Joseph-François Perrault approche les 40 ans lorsqu'il s'installe à Québec. Il a réussi à amasser un montant d'argent appréciable pendant ses années de commerçant. À Québec, il va être greffier et pro-notaire à la cour. Il s'installe dans une belle résidence baptisée l'Asile Champêtre sur les Buttes à Neveu. Les Buttes à Neveu, là, c'est grosso modo où est construit le Concorde. Quand vous arpentez la Grande Allée, là, mettons que vous partez de la Porte Saint-Louis, ben, vous montez jusqu'au Concorde, ça monte.
Mm-hmm. Puis après ça, ça descend un petit peu plus loin.
Alors, c'est ça. Ce sont les Buttes à Neveu.
OK.
Lui, sa résidence était là. Disons que le coin a pas mal changé depuis ce temps-là. Mais on était à l'extérieur des murs. Alors, c'était des résidences qu'il y avait là. Et lui, il était installé à cet endroit.
Ce qui semble rester de cette époque-là. En tout cas, c'était beau, là. Tu sais, c'était chic et distingué.
Ben, en fait, lui, il est là avant là, les résidences victoriennes qu'on trouve là. Mais il y avait un grand terrain, là. Il y avait pas ce qu'il y avait maintenant aujourd'hui. Alors, lui, il avait sa résidence puis un grand terrain autour. Alors, il était bien installé. Alors, lui, là, quand il s'installe à Québec, il voit que le taux de littératie est faible chez nous, de même que le taux de pauvreté est élevé. Un va pas sans l'autre, bien souvent. Il commence à s'impliquer dans l'avenir de l'éducation lorsqu'il est élu député au début des années 1800. En 1801, il va présenter un projet de loi qui sera défait. Il visait à en contrer un autre. Ce projet de loi-là qui a passé, finalement, il visait la création d'écoles publiques au Québec, mais uniquement anglophones. Puis lui, il voulait qu'il y en ait des francophones aussi. Okay. Mais de toute évidence, le clergé voulait pas. Alors, le projet de loi n'a pas passé. C'est le projet de loi des écoles publiques au Québec anglophones qui passe.
Hey, 1801, ça veut dire que tu avais raison de dire 150 ans d'avance. Mais oui. 160 ans d'avance sur la Révolution tranquille. Là.
Oui, déjà, lui, il y avait des idées...
C'est 5 générations d'avance. Là.
Il y avait des idées très novatrices. Mais le clergé, à ce moment-là, ne voulait rien savoir de ces idées-là. Alors, Perrault va se consacrer à temps plein dans l'avenir d'éducation à Québec à compter de 1816. À ce moment-là, il est élu au comité de direction d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement des souscripteurs pour le soutien des écoles publiques. Ça avait été fondé à Londres, ça. Puis, il y avait un chapitre de Québec qui avait été fondé quelques temps plus tard. Alors, lui, en 1816, il s'implique là-dedans. Et en 1821, il va fonder la Société d'éducation du district de Québec. C'est elle qui va financer la création et l'accès à l'école pour les enfants pauvres de la ville.
Okay.
Parce que lui, là, il voulait que les pauvres puissent s'éduquer quand même. On estimait qu'il y avait à peu près, grosso modo, 1000 enfants dans la ville de Québec qui n'avaient aucun moyen de se payer l'éducation offerte par le séminaire de Québec, entre autres par le clergé.
1000 enfants pauvres en 1820, on s'entend. Il n'y avait pas 500 000 personnes à Québec comme aujourd'hui.
Il n'y avait pas grand monde.
Des enfants éduqués, ils devaient être une minorité.
1800, il va peut-être avoir quoi? Autour de 20 000 personnes à Québec? Alors, 1000 enfants pauvres, là, c'était la majorité des enfants.
C'est ça.
Qui ne peuvent pas se payer l'éducation. Alors, la première année, 1821, il y a 90 enfants qui se sont prévalus de la création de cette école-là, dont François-Xavier Garneau, dont on a parlé bien plus qu'un cégep.
Ben oui, bien plus qu'un cégep.
En 1833, donc 12 ans plus tard, ils étaient plus de 450 garçons et filles canadiens et irlandais, donc des catholiques. C'était destiné aux catholiques, ces écoles-là. Et on estime qu'en 1837, donc on est à 16 ans plus tard, près de 2400 jeunes avaient profité de ces écoles pour s'éduquer. Pendant toutes les 16 ans, là, il y avait 2400 jeunes qui étaient passés par ces écoles-là. Parmi ceux-ci, François-Xavier Garneau, je l'ai dit. Alors ça quand même, c'est le premier historien de l'histoire du Canada, François-Xavier Garneau. Alors ces écoles-là, on ne sait pas ce qui est arrivé des autres. Là, c'est le plus célèbre de ces 2400-là. Mais quand même, ça a valu la peine. Mais déjà en 1837, Joseph-François Perrault y est ailleurs. Il a quitté la direction et la Société d'éducation et du mouvement des souscripteurs, mais son implication en éducation se poursuit. En 1829, il va ouvrir une école pour garçons dans le faubourg Saint-Louis qui enseigne à plus de 200 enfants, dont certains Irlandais. On est encore dans les catholiques. Là. C'est pas la langue qui compte, c'est la religion. On est quand même en 1800 quelque chose. Là.
Okay.
Un peu plus tard, il mettra sur pied une école de filles, non loin de celle-ci. Alors, on mélangeait pas les filles et les garçons, mais il y a une école de filles qui a été ouverte par lui. Il était très avant-gardiste, M. Perrault l'a dit un peu plus tôt, là. Mais en plus de l'enseignement traditionnel, il y avait de l'enseignement pratique. L'agriculture pour les garçons, du tissage et du filage et du tricot pour les filles.
Okay.
Puis il va pousser l'expérience plus loin en 1832. Il va fonder une école d'agriculture là, dédiée juste à l'agriculture qui va confier un spécialiste. Là, c'est pas lui qui va enseigner. Celle-ci est installée sur les bords de la rivière Saint-Charles et elle peut être considérée comme l'ancêtre des centres de formation professionnelle d'aujourd'hui.
Comme Wilbrod-Bérard, bien plus qu'un centre
et
de formation professionnelle.
On en a parlé. dont on a parlé la dernière saison.
C'est drôle que tu relativises les choses, hein, parce que, tu sais, on dit, il a poussé, bref, le concept de l'éducation avec des cours pratiques. Pour les garçons, l'agriculture, et pour les filles, le tissage, le filage, puis le tricot. Tu dirais ça aujourd'hui, puis ce serait maudit, sexiste, misogyne.
Oui.
Mais à l'époque, là, on est en 1800, début, première moitié des années 1800.
Ça, on est en 1832 quand il a fondé cette école-là.
Ça fait qu'on s'entend qu'à l'époque, en 1832, c'était révolutionnaire. À une école pour les filles, pensez-vous à ça, tu sais. C'est ça. Capoté, pareil.
Lui, c'est ça, il se disait, là, il y a moyen d'apprendre plein de choses, puis si on veut que nos gens soient... Parce que lui, il avait vu de visu, là, ce qui s'en venait, ou ce qui se passait pour les Canadiens français.
Ouais.
La chape de plomb de l'Angleterre s'était abattue sur la Nouvelle-France. Et là, les Anglais entraient à plein bateau, c'est le cas de le dire. Rappelez-vous quand je vous ai parlé des chantiers navals avec Davy.
Oui, bien plus que chantier naval.
Oui, c'est ça. Là, ici, Davy, bien plus que chantier naval. Ben, c'est ce qui est arrivé, là. Eux, les Anglais s'en venaient, là. Puis c'est eux, économiquement parlant, c'est eux qui prenaient le contrôle. Alors, comment les Canadiens français pouvaient survivre? Joseph-François Perrault, il dit, il y en a juste une, puis c'est par l'éducation. Alors,
ouais,
il s'est attelé à la tâche, puis il s'est donné comme mission d'éduquer le plus de Canadiens français possible. Riche ou pauvre, lui, ça faisait pas de différence. Il faut que tout le monde s'éduque. Puis il a quand même réussi. Il est mort à 90 ans. Monsieur Perrault, hein? 1844.
Si boulot, il avait une méchante génétique, 90 à l'époque.
Ben, c'est ça que, comme je vous disais, quand il avait été capturé par les Amérindiens,
sa
grande forme physique, apparemment, c'était un monsieur qui était physiquement, là, qui était en grande forme. Ça lui avait permis de survivre cette captivité d'un mois auprès des Amérindiens.
Ça, c'est là que moi, je serais mort.
Ouais, ben, probablement, il y en a un paquet. Ben, l'histoire le dit pas, là, mais dans le bateau, là, qui a été capturé par les Amérindiens, il était pas tout seul. Alors, il y en a plusieurs qui ont pas dû survivre. Le périple. Donc, 1844, 90 ans, Joseph-François Perrault meurt à Québec. Il est à noter qu'il a financé en totalité ou en grande partie tous les projets d'éducation qu'il a mis sur pied. Là. C'est lui là, qui sortait de l'argent de sa poche pour que ça fonctionne. Il fut un des premiers philanthropes canadiens-français avant même que ce mot entre dans notre vocabulaire.
Avant même que le mot philanthrope soit.
C'est ça. Puis quand on parle de philanthropie, on pense beaucoup au monde anglo-saxon. Les Canadiens anglais, les Américains sont forts là-dessus. Mm-hmm. Les Québécois, un peu moins. Mais lui, déjà, à cette époque-là, il avait ça en tête. C'était un catholique pratiquant. Je vous ai dit qu'il avait eu un petit peu de conflit avec le clergé parce que lui, dans ses écoles, il n'a jamais imposé la religion. Seuls les élèves qui en demandaient avaient des cours de religion. Mais pourtant, lui, c'était un catholique pratiquant.
Ah,
il n'avait rien contre la religion, mais pour lui, c'était un libre choix. Puis il se disait, s'ils en veulent, je vais leur en donner. S'ils n'en veulent pas, je leur enfoncerai pas ça dans la gorge. Alors, c'est pour ça qu'il a souvent été en conflit avec le clergé. Mais même à ça, il a quand même réussi à mener la plupart de ses projets à bien.
Sais-tu quoi, François? Je réalise en t'écoutant que dans un cours d'histoire à l'école, j'ai jamais entendu parler de Perrault.
Mais moi, c'est un accident.
C'est surprenant. Ah oui, non, mais c'est étonnant parce qu'on regarde tout ce qu'il a fait. Puis, Colin, c'est le premier philanthrope, tout ce qu'il a fait pour l'éducation. Ça devrait être un personnage hyper célèbre, toute la patente. Mais à part, tu sais, l'école Joseph-François Perrault.
Non, s'il n'avait pas nommé cette école-là, là, il aurait sombré dans l'oubli, ce monsieur-là. Puis,
c'est
en
ça.
Fait, moi, je l'ai découvert un peu par accident. Mais je savais qu'il existait, là. Mais c'est en faisant la chronique sur François-Xavier Garneau la semaine dernière, en faisant mes recherches, puis que je me suis aperçu que François-Xavier Garneau venait d'une famille pauvre, qui avait été éduqué grâce à ce monsieur-là qui avait ouvert ses écoles pour les pauvres. Là, je me disais, un peu, là, il y a une histoire-là. Alors, voilà.
Suggestion d'un auditeur. Mon cher sieur de terrain.
Allez-y, j'aime les suggestions.
Martin, il dit, pourquoi pas une chronique sur les noms des quartiers de Québec et les alentours? Il donne comme exemple l'ancienne Lorette, la paroisse d'Ancienne Lorette, il dit, avait un secteur appelé Grand Désert.
Hippalaye.
Faudrait trouver un moyen d'avoir de la documentation là-dessus. Je sais pas où tu peux trouver ça, mais les noms de... Parce que le pire, c'est que l'ancienne Lorette, j'avais déjà lu là-dessus, puis je me souviens plus c'est quoi la réponse, mais je m'étais dit, si y a une ancienne Lorette, y a-tu une nouvelle Lorette?
Comme je l'ai entendu.
Y a-tu une Lorette?
Mais Loretteville.
Non, mais il y a une explication.
Mais il doit avoir un lien.
Une Loretta qui était, je pense, une autochtone. Mais là, regarde, je fais bien attention.
C'est pas
parce
que j'ai entendu à l'émission de Denis Anger à ma TV. Là.
Des chemins et des
histoires.
Ouais,
c'est ça.
Ouais.
Puis,
c'est peut-être là que
fait
je l'avais
entendu. Lorette, puis je l'ai entendu, mais je l'ai pas retenu.
Les Wendats se sont installés à l'ancienne Lorette au départ. Après, ils sont allés à Loretteville.
Mais parce que c'est ça. Mais je me demandais, tu sais, c'est qui Lorette? Mais mettons, je sais pas moi... Le Bourgneuf, c'est le nouveau beau. Tu peux faire d'étymologie un peu, mais il y a certains secteurs comme ça sur lesquels on pourrait s'intéresser.
Le beau port, il va avoir un beau port.
Limoilou, ça veut dire quoi? Charlebourg, c'est qui Charles? C'est-tu le roi d'un tel? En tout cas, si jamais, à un moment donné...
Je vais faire des recherches, là, parce que ça en demande pas mal. Là. Je vous confirme que ce ne sera pas la chronique la semaine prochaine.
Non, ça va prendre plus de temps.
Éventuellement, ça pourrait être effectivement très
intéressant. As-tu une idée la semaine prochaine ou pas encore dessus?
Pas vraiment. Ben, tantôt, on a parlé de Jacques Cartier. Là, si on veut continuer notre série, bien plus que lui, c'est bien plus que un paquet d'affaires.
Bien plus qu'un pont.
Bien plus qu'une plage, bien plus qu'une place. Mais je suis encore ouvert aux suggestions. Okay. Je n'ai pas d'idée arrêtée encore pour la semaine prochaine.
Ben, si jamais vous avez des suggestions, petit texto 25226, je l'ai fait parvenir au Sieur de Terrien. De qui aimeriez-vous entendre l'histoire? De qui ou de quoi? Et puis là, je vois pas personne qui écrit Dieu bien plus qu'un hôtel, à cause de l'hôtel Dieu.
Ça sera pas System of a Down non plus.
Non plus, System of a Down, ça s'en va. Hey, merci François.
Salut.
À la prochaine, bye bye, courte pause.
Que Québec se lève. Que Québec se lève. De retour dans quelques instants. FM 89.